Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé par Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Joséphine Reynard et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le troisième volet de notre série consacrée aux rapports de force politique qui se nouent à travers les accords de libre-échange. On parlait hier de la Chine qui ambitionne de créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Demain, il sera question du repli protectionniste américain. Aujourd'hui, la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, où les rêves d'un marché unique africain.
Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires, et nos jeunes en particulier, n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcellent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère, alors même que l'Afrique regorge de richesses.
Voici la première cargaison de produits à être expédiée dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Depuis ce port, depuis les aéroports et les postes frontières de tout le continent, une ère totalement nouvelle de croissance et de prospérité s'ouvre devant nous.
Before the AfCFTA.
Avant la mise en place de la ZLECAF, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana ne profitaient pas de tarifs préférentiels. Les produits sud-africains entraient sur le marché au Ghana, au Nigeria ou au Kenya dans les mêmes conditions d'accès que les produits américains ou chinois.
Le 31 janvier dernier, le port de Durban en Afrique du Sud laissait partir ses premiers containers exportés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, des réfrigérateurs, de l'acier et du carton, destinés au Kenya qui en retour exportera vers l'Afrique du Sud du thé, du café, des fruits et des légumes. Tous ces produits bénéficiant de taxes douanières très fortement réduites, comme le stipule le traité signé par 54 pays africains, y compris ceux du Maghreb. Seule l'Érythrée a décliné l'invitation à se joindre à ce grand marché commun. Si au départ l'initiative est portée par des arguments politiques, de panafricanisme et de souveraineté, les raisonnements de ses partisans sont aujourd'hui essentiellement économiques. Il s'agit de privilégier les productions du continent, d'encourager l'industrialisation, de favoriser l'intégration. Pourtant, les obstacles semblent encore nombreux pour donner une consistance à cette zone, des économies très inégales d'un pays à l'autre, des monnaies différentes et aussi des réserves exprimées par certains signataires comme le Nigeria. Alors où en est la construction de ce marché commun? Quels espoirs et solutions a-t-il créé et quels en sont les risques? Nous allons accueillir dans quelques instants Martial Zebelinga qui est chercheur indépendant en économie et sciences sociales, qui est notre grand invité, comme on le dit, qui doit être seul avec nous dans ce studio pour cette grande première partie, mais que nous attendons toujours. Il est coincé dans les transports et ça arrive malheureusement. Ça tombe bien, nous avons avec nous Émilie Lafitto. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Mais merci à vous, vous deviez intervenir en fin d'émission. Les auditeurs sont habitués à nos focus qu'on fait intervenir en fin d'émission. Vous êtes économiste et chercheuse associée à l'IRIS et vous venez nous parler, vous, de la CEDEAO. Alors pour expliquer un tout petit peu les choses et pourquoi on va parler de la CEDEAO dans le contexte de cette zone de libre-échange africaine, c'est parce qu'avant de parler intégration continentale, savoir si ça peut marcher ou pas, encore faut-il savoir si l'intégration régionale fonctionne. Or, c'est assez compliqué, alors pour des raisons politiques, mais pas seulement. Pour des raisons politiques, il faut rappeler que la CEDEAO avait sanctionné différents régimes d'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, après des coups d'État au Niger également dans les années passées, et que trois États d'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ont décidé de quitter la CEDEAO ces dernières semaines. Ils n'ont pas goûté les remontrances de l'organisation régionale et encore moins les sanctions qu'elle avait prise à leur endroit. Alors la CEDEAO étant aussi une union douanière, quelles conséquences économiques ont d'ores et déjà eu ce départ groupé? Émilie Lafitto, d'abord, qu'est-ce qui se passe quand trois pays qui font partie d'une union douanière la quittent? Très concrètement, qu'est-ce qui se passe?
Alors, effectivement, le 28 janvier dernier, les trois pays de l'AES, donc à savoir le Mali, le Bénin et le Niger, ont annoncé dans un communiqué conjoint qu'ils se retiraient de la CEDEAO. Alors, ce retrait, il sera effectif d'ici un an. Donc, ils ont un an pour mettre en place ce retrait. Mais effectivement, on sent effectivement au niveau de ces pays une volonté très affirmée de quitter la CEDEAO. Je pense qu'elle vient de deux raisons. D'abord, des sanctions. Des sanctions fortes qui ont été à l'encontre de ces pays par la CEDEAO. Et puis également avec la menace de la CEDEAO l'été dernier d'une intervention militaire au Niger.
Mais l'union douanière à proprement parler, d'abord les effets d'un départ de trois pays d'union douanière, est-ce que tout de suite ça veut dire que des frontières se redessinent, que des contrôles ont lieu à nouveau à la fois sur les marchandises et sur les personnes?
Alors, sur la libre circulation, effectivement, on voit que il peut y avoir des effets sur les échanges de biens et de services. En fait, c'est les bénéfices tarifaires que ces pays ne pourront plus, ils ne pourront plus bénéficier de ces avantages tarifaires à partir de l'année prochaine. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que la sortie d'une union douanière de la CEDEAO de ces trois pays fait que à partir de 2025, ils ne pourront plus bénéficier de ces avantages tarifaires. Donc, on peut s'attendre à des conséquences négatives au niveau de leur balance commerciale, donc au niveau de leurs exportations et de leurs exportations. Cela dit, au sein de la CEDEAO, ces trois pays appartiennent à une autre union douanière qui est l'UEMOA. Et dès lors qu'on regarde la composition des échanges qu'ont ces trois pays au sein de la CEDEAO, on voit que la grande majorité, ils le font avec les pays de l'UEMOA.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine.
Exactement.
Ce sont surtout des pays francophones.
Ce sont les huit pays francophones de l'Afrique de l'Ouest qui partagent une monnaie commune.
Le franc CFA.
Le franc CFA, qui sont assez intégrés au final. En tout cas plus qu'au sein de la CEDEAO, et les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, échangent sur les échanges intracommunautaires qu'ils ont au sein de la CEDEAO, une très grande majorité se fait au sein de l'UEMOA. Donc si vous voulez, le dispositif d'union douanière de l'UEMOA, qui est à peu près le même que celui de la CEDEAO, vient faire un rempart. Du coup, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences assez négligeables finalement, parce qu'il y a le rempart de l'UEMOA qui se substitue, si vous voulez, à l'union douanière CEDEAO.
La Côte d'Ivoire et le Sénégal, par exemple, restent des partenaires commerciaux importants de ces pays. Est-ce qu'on a une idée d'ores et déjà si les échanges ont augmenté, diminué, au contraire, à la faveur des soubresauts politiques?
Les chiffres sur cette région, pour avoir des chiffres sur cette région actualisés, faut attendre un peu. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur ces trois pays, par exemple, le Burkina, le Mali et le Niger, ils échangent environ entre 25 et 30% de leurs échanges au sein de la CEDEAO, ce qui est pas négligeable. Par contre, on voit que si on enlève la part qui va dans l'UEMOA, ces chiffres, on arrive entre moins de 10%, aux alentours de 5%. Donc vous voyez, les échanges que ces pays réalisent avec la CEDEAO hors UEMOA sont finalement assez négligeables, de l'ordre de 5% sur les derniers, ça c'est les derniers chiffres de la CNUSED. Et donc, on peut s'attendre à des effets assez négligeables au final. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que même s'il y a effectivement un dispositif d'union douanière, 50% des échanges dans ces pays sont informels. Et donc, en fait, ces tarifs ne s'appliquent pas. C'est une union douanière qui est très incomplète. L'intégration, elle est très incomplète. Donc, même si par des traités, on sort institutionnellement d'engagement, dans la pratique, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui perdurent. Et d'ailleurs, ces pays, on l'a vu avec la Covid, on l'a vu avec l'Ukraine, ils ont été assez résilients au final, au niveau de leurs échanges. Parce que, effectivement, beaucoup d'échanges sont transfrontaliers, beaucoup d'échanges sont informels. Et donc, à ce niveau-là, le retrait de la CEDEAO n'aura pas un impact, en tout cas, pas à court terme.
économique. Le Mali, par exemple, vendait déjà son or, qui est sa principale ressource, et un quart de ses rentrées fiscales, à l'Afrique du Sud, à l'Australie, à la Suisse. Donc, or, c'est DAO. Donc, il y a a priori, si on prend cet exemple-là en particulier, pas d'effet de conséquences immédiates et lourdes pour les économies. C'est ça. Enfin, c'est vraiment, on peut prendre produit par produit, pays par pays, mais en tout cas, voilà, c'est une illustration de ce que vous nous disiez, Émilie Lafitteau.
Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est vrai que si on le fait pays par pays, secteur par secteur, produit par produit, il y aura des effets. Mais sur un niveau macroéconomique, ces pays, au final, ont une intégration régionale au sein de la CEDEAO assez moyenne, voire faible. Et du coup, ce retrait aura des impacts assez négligeables, d'autant plus, je le rappelle, qu'il y a donc ce dispositif UEMOA pour lesquels ils n'ont fait aucune annonce.
Comment ont-ils fait ces pays qui sont par ailleurs sous sanction de la CEDEAO? Alors les sanctions ont été levées là récemment, mais pendant quelques semaines, quelques mois, ils ont été mis sous sanction. Au Niger, par exemple, on ne trouvait plus certains médicaments, on ne trouvait plus il y avait plus d'électricité, certains produits alimentaires également. Vers qui se sont-ils tournés pour pouvoir déjà peut-être acheter, mais aussi se fournir tout simplement en biens de première nécessité?
Alors, effectivement, les sanctions ont été assez lourdes et assez longues, hein, je le rappelle. Par exemple, j'ai plus exactement les chiffres.
Ça a été plusieurs mois,
voilà,
pour les pays.
Plusieurs mois. Donc, effectivement, les sanctions ont été assez lourdes, avec des coûts sociaux importants. Pourquoi? Parce que il y avait effectivement des biens alimentaires au niveau de l'approvisionnement, avec les blocus qu'il y a eu aux frontières qui étaient coupés, et puis un renchérissement des prix assez important, et donc il y a eu des coûts sociaux pour la population très importants. Donc à ce niveau-là, effectivement, on peut voir qu'il y a eu des conséquences pour la population de ces sanctions.
Alors, avec le recul, si on parle vraiment là de la CEDEAO comme union douanière, parce que c'est une entité par ailleurs politique, avec des décisions politiques, et notamment ces sanctions après des coups d'État, mais sur l'union douanière, avec le recul, donc 50 ans de recul maintenant, puisque la CEDEAO a été créée en 75, que peut-on dire, Émilie Lafitteau, des effets de cette union dans les pays membres, de leur intégration économique, de l'éventuelle mise en commun de leurs moyens, par exemple pour développer des infrastructures? Est-ce qu'il y a eu de vrais avantages économiques à créer une union douanière régionale avant de basculer avec Martial Zele-Belinga qui vient de nous rejoindre sur une union continentale?
Alors, sur cet aspect, il y a des statistiques qui existent. Par exemple, il y a l'indice d'intégration régionale qui est produit par l'Union africaine, l'UNECA et la Banque africaine de développement, qui vise à mesurer ces intégrations régionales. Deux indices ont été mesurés, hein, en 2016 et en 2019. On voit que au niveau, par exemple, de la CEDEAO, l'indice d'intégration régionale en 2019, il n'est que de 0,4. Donc, si vous voulez, à 0, vous n'êtes pas intégré. À 1, vous êtes parfaitement intégré. Donc, on voit que c'est assez moyen. Il est en recul par rapport à 2016, mais on peut noter toutefois qu'il est plus élevé qu'au niveau du continent, parce qu'au niveau du continent, on n'est qu'à 0,3. Donc, effectivement, on voit que il y a des dispositifs qui sont mises en œuvre avec énormément de moyens. Il y a les bailleurs internationaux poussent énormément pour plus d'intégration régionale. Dans les faits, on peut voir que ça a des résultats et des impacts assez mitigés, notamment sur l'intégration productive et sur l'intégration des infrastructures, parce que c'est vraiment à ces deux dimensions-là que, au niveau de la CEDEAO, mais au niveau du continent, les scores de ces indices sont les plus bas. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas plus d'intégration productive à la fois au niveau régional et sur le continent, malgré la mise en place de ces dispositifs.
Et sur l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, oui, qui est donc une structure à l'intérieur de la CEDEAO entre pays qui sont francophones et qui surtout ont une monnaie commune, le franc CFA, est-ce que là l'intégration est plus facile parce que la monnaie facilite les choses ou pas nécessairement?
Alors oui, dès lors que vous avez une monnaie commune, cela bien sûr facilite l'intégration, parce que effectivement ça va simplifier vos échanges et que ça va permettre une plus de facilitation au niveau des échanges des biens, mais également des capitaux. Donc une monnaie commune participe clairement à une intégration économique.
En tout cas, les sanctions sont levées depuis là le 1er mars. On verra si les pays concernés ont l'intention, ne serait-ce que s'interrogent sur l'opportunité de réintégrer l'organisation de la CEDEAO et le marché commun. C'est une question en suspens. Merci beaucoup, Émilie Lafito, d'avoir été avec nous, économiste, chercheuse associée à l'IRIS. Et merci d'avoir été là dès le début de l'émission. On retrouve dans un instant notre invité Martial Zebelinga, chercheur indépendant en économie et en sciences sociales, pour parler de cette zone de libre-échange sur l'échelle du continent. Je vous remercie. La chanteuse malienne Oumou Sangaré et sa chanson Sarama, qui date d'il y a 2 ans. Écoute, dit-elle, écoute, au lieu d'être jaloux de quelqu'un qui est prédestiné, béni et chanceux, tu devrais te lier d'amitié avec lui, ce sera pour le mieux. Vous écoutez Culture Monde, juste après avoir parlé avec Émilie Lafito de la CEDEAO, très divisée aujourd'hui, union politique mais aussi union monétaire. Alors, si une intégration régionale est aussi fragile aujourd'hui, que dire d'une intégration continentale à l'échelle du continent africain? Est-elle possible? Qu'est-ce que ce projet de zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF? On en parle tout de suite avec notre invité Martial Zebelinga.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Bonjour Martial Zebelinga.
Bonjour.
On est heureux de vous recevoir. Enfin, vous êtes arrivé dans nos studios. Vous êtes chercheur indépendant en économie et en sciences sociales. Martial Zebelinga, on a posé un petit peu les termes du débat au début de l'émission en rappelant que la zone de libre-échange africaine était une initiative portée au départ par des arguments politiques, de panafricanisme, de souveraineté. Un raisonnement qui aujourd'hui est remplacé par une logique un peu plus économique et de libéralisme. Est-ce que vous vous rappelez les premiers discours, les premières prises de position en Afrique sur la nécessité d'une zone économique commune? De quelle réflexion la ZLECAF est-elle aujourd'hui l'aboutissement?
Ce sont des réflexions bien lointaines, parce que à l'orée de la création de l'organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine, ça s'appelait comme ça, en 1963, avec les pères fondateurs, les Nkrumah, des gens comme ça, les grandes idéologies dominantes, c'était d'une certaine façon faire les États-Unis d'Afrique, faire un État africain, un État unitaire africain, un État fédéral africain. C'était les idées qui dominaient les années 60. Et déjà à cette époque-là, l'Union africaine, qui s'appelait à l'époque Organisation de l'Unité africaine, avait commandé des études pour voir dans quelle mesure il était possible d'avoir des échanges intra-africains et créer un système de compensation permettant aux monnaies d'échanger entre elles, etc. Donc, cette idée que On a besoin d'un espace intégré, qui soit un espace économique, mais qui donne de la force politique aussi, et qui permette également, dans un contexte qui était déjà le contexte de décolonisation, de, en gros, se désencastrer des économies coloniales de l'époque. Cette idée, elle est très ancienne. Elle a subi l'évolution du temps, les changements idéologiques, parce que dans les années 60, il y avait encore cette idée de tiers-mondisme était très fort, très puissant. Avec le temps, on sait que les idéologies néolibérales ont pris le dessus dans les années 70, 80, etc. Mais sur la durée, on voit bien, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, que les politiques africains, quelle que soit leur extraction, quelle que soit leur tendance, vont quand même maintenir le fil de cette idée d'avoir un espace commun, un espace intégré. C'est pour ça que j'hésite à parler de zone de libre-échange au sens de libre-échange. C'est plus une idée de l'intégration africaine qui se réalise ou qui se matérialiserait, entre autres, par le commerce et par des dégrèvements tarifaires. D'ailleurs, alors j'ai pris les années 60, la CEDEAO est créée dans les années 70. En 1980, il y a un plan d'action de Lagos qui est un plan d'industrialisation et d'échange du continent. En 91, il y a un traité d'Abuja sur la communauté économique africaine. En fait, toutes les décennies, il y a eu une espèce de pas en avant. Alors j'avais appelé ça à l'époque un surinvestissement formel parce qu'on voyait pas énormément les effets, mais on voyait qu'il y a quand même une volonté politique soutenue par beaucoup d'intellectuels d'ailleurs.
Soutenue par des intellectuels, soutenue par des économistes, soutenue par des hommes politiques, et s'il est difficile de mettre un visage sur ceux qui ont porté la ZLECAF, on peut citer notamment Paul Kagame, président du Rwanda quand il était à la tête de l'Union africaine, alors là pour les plus récents, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Tchad, celui de la Zambie, Albert Mouchanga. Donc cette zone de libre-échange continentale africaine, beaucoup, comme vous, n'aiment pas ce mot de libre-échange, mais c'est le sigle de la ZLECAF, donc je vais le dire comme ça, même si beaucoup disent qu'on préférait parler de marché commun. On verra peut-être quelle est la différence, mais cette année, c'est la véritable année de lancement de la ZLECAF. 7 pays l'avaient initié comme des pays pilotes l'année dernière, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, Rwanda, Tanzanie, Tunisie et Maurice. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a déjà des premiers retours de ces pays? Est-ce qu'ils sont censés faire un rapport récurrent pour dire voilà comment ça se passe, ce qu'on est en train de mettre en place?
D'accord. Alors, je reprends le fil et puis j'arrive vers vous. Alors, on a les grands thèmes fondateurs, un peu les ancêtres, l'ancestralité panafricaine. Et effectivement, dans les années 2000-2012, il y a une décision de l'Union africaine, lors d'un sommet de l'Union africaine, qui dit, voilà, on va passer à une zone de libre-échange, puisqu'on avait déjà, dans les années 90, on était déjà officiellement passé aux accords régionaux, donc libéralisés par région. C'était déjà mis en place. Donc la CEDEAO fait partie, la CE fait partie, le COMESA, la SADC, etc. Donc il y avait déjà des ensembles sous-régionaux qui étaient créés. Et donc en 2012, la réflexion des chefs d'État et leur conseil dit qu'il faut passer à une étape supérieure. 2015, on commence les négociations. 2018, les négociations aboutissent. 2019, l'ensemble des pays devant ratifier, on a au moins 22 ratifications. Et puis, on commence réellement en 2021. On commence par, on va dire, une phase pilote. C'est ce qu'ils appellent un commerce guidé. Et c'est un certain nombre de produits, de pays. 8 pays, je crois, 7 ou 8 pays et 96 produits. Alors, il faut bien se dire une chose. Demander des résultats à ZLECAF aujourd'hui, c'est déjà ne pas vraiment avoir une proximité avec le texte. Je suis un peu désolé. Le texte de la ZLECAF, stricto sensu, dit que les baisses de tarifs s'étalent au minimum sur 10 ans.
C'est très progressif.
Mmh. Donc on a à peu près, on veut libéraliser, entre guillemets, 90% des produits échangeables, pour aller vite. Et ces 90%, on doit les libéraliser sur une période qui peut aller de 10 à 15 ans même, pour un certain nombre de pays et pour un certain nombre de produits sensibles, etc. Donc ce serait vraiment un petit peu... ce serait pas très sérieux d'attendre des résultats extraordinaires, puisque au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est une logique par pays et par accords régionaux. Je prends un exemple simple. Si vous allez en Afrique centrale, l'ensemble des pays, sauf le Cameroun, ils ont dit voilà, nous on a demandé 7 ans pour arriver à un certain degré de libéralisation. Or, toutes les études montrent que pour qu'on ait un commencement d'impact en termes d'efficacité, en termes de croissance, etc., il faudrait que la majeure partie des pays et atteint les 90% de baisse des droits de douane, qu'on ait pu avancer dans la facilitation de la logistique, des opérations douanières, etc. Et puis tout autour, il y a un ensemble de dispositifs sur la circulation des personnes, sur le taux d'intégration par les infrastructures. Il y a la création d'un outil de paiement panafricain, ça s'appelle, j'ai oublié le sigle, mais qui permet à n'importe qui de payer de n'importe quel pays vis-à-vis de n'importe quel fournisseur. Donc tous ces outils-là sont en fait une espèce de ceinture comme ça d'instruments. Autour de l'ASLECAF, et assez, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que ces outils-là sont au moins aussi importants que l'ASLECAF en elle-même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir un système de paiement panafricain. Si demain, on dit, bon, on diffère l'ASLECAF, le système de paiement, il restera. Si on avance suffisamment dans les facilitations douanières, par exemple, ce sera toujours ça de gagner, même si on n'a pas 0% de taux de droits de douane à payer, autant pour moi. Donc je pense que tous ces éléments-là font que rester dans l'idée et la logique d'un accord de libre-échange qui devrait produire des effets à court terme, c'est une erreur. En fait, l'ASLECAF, c'est un processus de départ. C'est pas comme les accords de libre-échange dans des pays industrialisés où on est déjà industrialisé, où on a déjà des filières relativement optimisées, où on a des infrastructures. C'est exactement le contraire. L'ASLECAF devrait stimuler ce mouvement-là, stimuler le mouvement d'industrialisation et de production.
Remonter les chaînes de valeur, produire des biens transformés ou semi-transformés, puisqu'aujourd'hui, le continent africain exporte essentiellement des produits primaires, comme on dit, des matières premières, et importe les produits industriels. Peut-être un mot sur les produits qui feront l'objet de baisses de douane jusqu'à 90%. Comment sont-ils choisis? Est-ce que chaque État, aujourd'hui, est en mesure de fixer une liste pour dire sur ce produit, je ne voudrais pas qu'on baisse les droits de douane parce que ça va trop me fragiliser? Enfin, jusqu'où peuvent-ils donner leur avis là-dessus? Et surtout, comment choisissent-ils, comment choisit-on, comment décide-t-on qu'un produit est africain ou pas? Parce que les produits concernés par ces baisses de douane sont des produits désignés comme de fabrication africaine. Comment ça se définit? Parce qu'on sait qu'avec la mondialisation, c'est compliqué de tracer aussi méticuleusement l'origine de tout produit.
Absolument. Donc, il y a deux questions que vous posez. La première qui consiste à dire comment les pays choisissent ce qu'on appelle les concessions tarifaires. Et là, il y a une logique par pays. C'est-à-dire que chaque pays envoie à l'ASLECAF, au secrétaire de l'ASLECAF, il dit voilà, moi je vais atteindre les 90%, j'exclus pour telle et telle raison, j'exclus tels produits qui sont sensibles pour, je sais pas, la sécurité alimentaire, qui sont sensibles pour la sécurité du pays, qui sont sensibles pour la balance des paiements parce que ce produit, par exemple, il ramène 30%, 40% de recettes budgétaires, donc je peux pas me permettre de l'exposer. Il y a aussi des raisons sociales. J'ai une agriculture qui ne peut pas encore affronter telle autre agriculture. Et donc, le pays envoie un ensemble, un argumentaire, en réalité, et il propose donc un schéma. Il dit, voilà, tel et tel et tel produit vont être libéralisés de tel pourcent sur la période allant de telle date à telle autre date. Ensuite, ça va être tel type de produit. Ensuite, ça va être tels autres produits. Donc, en considération de ses propres préférences, les préférences du pays qui sont sociales, qui sont d'efficacité, qui sont de sécurité, qui sont de santé, etc. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le deuxième aspect de votre question, c'est sur la définition
d'un produit de fabrication africaine.
Ça, c'est l'aspect le plus technique et en même temps le plus conflictogène. C'est ce qu'on appelle les règles d'origine. Alors, chaque fois que vous faites un accord, disons, de franchise, de droits de douane, etc., vous devez dire quels sont les produits éligibles. Et là, c'est un accord africain. Ça veut dire que les produits doivent être soit entièrement fabriqués en Afrique, aussi bien les matières premières que le produit fini. Ça, c'est la première, disons, classe de produits rentrant dans les règles d'origine. Soit alors, je le dis pour aller vite, avoir un contenu local important. C'est-à-dire qu'on définit des critères, produit par produit, pour dire, là, si vous avez, mettons, un certain niveau d'importation d'intrants ou de composantes, il ne faudrait pas que ça dépasse tel pourcentage de la valeur du produit.
Pour quel produit, par exemple,
N'importe, si vous prenez, si vous prenez de la viande, que vous faites venir de la viande, mettons, d'Amérique du Sud. Si vous dites, moi j'ai fait de la découpe de viande, donc j'ai rajouté de la valeur, on vous dit non. Parce que le contenu local n'est pas substantiel, n'est pas suffisant pour dire que c'est un produit africain. Voyez? Donc là, typiquement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les règles d'origine fonctionnent comme ça.
Ça peut être aussi dans des produits plus travaillés.
Exactement.
Où il y a un petit décomposant, certains composants qui ont été importés.
Voilà. D'où l'importance des discussions qu'il y a aujourd'hui autour du textile, autour de l'automobile, etc., bien sûr.
De l'automobile, de l'agriculture, vous disiez que certains pays aujourd'hui, pour l'instant, préfèrent exempter l'agriculture de ces baisses de tarifs douaniers. Est-ce que c'est le cas de tous les produits agricoles? Et par ailleurs, sur l'agriculture, est-ce que pour affronter le libre-échange, si dans les années à venir, ces produits agricoles seront aussi concernés par cette zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, est-ce que les agriculteurs africains, les éleveurs vont bénéficier d'un fonds d'aide comme les agriculteurs européens ont été aidés par la PAC, la politique agricole commune, ou c'est trop pas anachronique, mais où ce serait, cette question est sortie d'un contexte et cette comparaison n'a pas lieu d'être?
Non, elle n'est absolument pas sortie du contexte. Dans tous les accords de cette nature-là, y compris la ZLECAF, donc, il est prévu ce qu'on conseille à chaque pays, c'est d'avoir une stratégie ZLECAF. Un certain nombre de questions que vous posez revient à dire, est-ce que on a la production, la productivité suffisante déjà pour avoir des produits à mettre dans les tuyaux de l'échange? Parce que pour avoir un échange, il faut avoir des produits. Donc là, il faut des politiques structurelles, relancer les politiques de compétitivité, etc. Pour ce qui est de, il n'y a pas de logique, mettons, on va dire, pour l'agriculture en général. C'est une logique produit par produit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des concessions tarifaires, ça cible des produits, des positions tarifaires bien précise, et on dit pour cette position tarifaire, voilà la règle d'origine qui va s'appliquer et voilà comment ça va fonctionner. Donc il est prévu que les pays anticipent donc cette phase-là et prévoient, lorsqu'ils décident de libéraliser un secteur, ils prévoient les impacts, ils prévoient également les compensations. Au niveau de la ZLECAF, il est prévu un certain nombre de fonds, un certain nombre d'outils de compensation, que ce soit dans l'automobile, dans l'agriculture, etc., etc., pour aider les pays qui en feraient le besoin d'avancer dans cette logique-là. C'est pour faire en sorte que les chocs ne soient pas trop importants et que les pays se préparent. Parce que si précisément on dit qu'on étale la réduction des droits de douane sur 10 ans ou 15 ans pour les PMA et les produits sensibles, c'est pour préparer les filières, justement.
Émilie Lafitteau nous disait tout à l'heure, quand on a parlé de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, que l'économie y est majoritairement informelle. C'est le cas de nombreuses économies africaines dans de nombreux pays d'Afrique. On dit que, alors c'est toujours difficile par définition à définir, mais 3/4 des emplois sur le continent africain ne sont pas déclarés. Alors comment faire pour que ces accords de libre-échange ne bénéficient pas d'abord, comme on l'a dit lundi, des traités que l'Union européenne signait avec d'autres entités, ne bénéficient pas d'abord aux grands groupes, que ce soit les multinationales, mais aussi l'élite africaine très connectée à la mondialisation, qui sait déjà manier les règles du commerce international, versus les petites entreprises, voire ceux qui travaillent à leur compte, qui très certainement se retrouveront en concurrence.
Deux choses. Comment faire pour ? La première réponse, c'est les règles d'origine. Si vous arrivez à définir la nationalité des produits, en vous assurant techniquement pour que les produits aient un contenu local, eh bien, logiquement, ça devrait d'abord bénéficier aux locaux.
Ça concerne par exemple les multinationales de la bière, dont on a parlé dans Culture Monde, qui a promis d'utiliser du houblon africain, qui pour l'instant ne le fait pas assez. Mm-hmm. On pourrait pas bénéficier de ces accords de libre-échange.
Ça veut dire que logiquement, si il n'y a pas suffisamment de céréales venant d'Afrique, mais suivant la définition qui sera faite sur cette position, sur cette
règles
d'origine tarifaire, ces produits-là ne pourront pas être admis à circuler sur l'ensemble du territoire. Cela dit, ce n'est peut-être pas la première priorité. Il faut dire que les bières se vendent déjà bien comme ça. Certains disent beaucoup trop. Je pense qu'il y a il y a d'autres secteurs sur lesquels on pourrait se poser davantage de questions, et surtout on pourrait penser à stimuler d'autres secteurs, notamment la productivité agricole, qui est absolument importante. C'est une question de sécurité alimentaire. C'est une question aussi de bien-être des populations. Mais en même temps, l'ouverture de ce point de vue-là, elle est intéressante parce qu'elle apporte de la diversité, de la qualité. Par exemple, Je sais qu'une des toutes premières, si ce n'est la première transaction ZLECAF qui a eu lieu en 2022 ou 2023, c'était des exportations, c'était une exportation qui partait du Cameroun vers le Ghana. Et c'était du thé au gingembre, des choses comme ça, c'est des légumes, etc. Donc ça se fait déjà, ça peut se faire. Pour qu'on évite ce qu'on appelle les comportements du passager clandestin, il faut deux choses. Que les règles d'origine soient précisément définies, mais également, il faudrait les capacités institutionnelles pour pouvoir contrôler, le cas échéant, ou au besoin, tout au moins, le caractère national ou le contenu local des produits. C'est-à-dire que si un pays vous dit, voilà, moi j'ai telle cargaison, ou un exportateur dit j'ai telle cargaison, ça vient de mon pays. Bon, il faut qu'il ait un certificat d'origine. Il faut que le certificat d'origine puisse être au moins par moment vérifié ou contrôlé. Donc si, entre guillemets, il y a des trous dans la raquette, bah, c'est sûr qu'on pourra faire passer des produits non africains dans le marché, dans la zone de libre-échange africaine, si on veut. La réponse fondamentale, la première réponse, c'est quand même la montée en gamme dans la production et dans la transformation, dans les chaînes de valeur locales.
Des chaînes de valeur régionales qui peuvent être créées, c'est ce qu'on espère par exemple. Qu'est-ce qu'on espère créer comme chaîne de valeur régionale pour faire en sorte que le continent africain ne soit plus simplement un continent d'où l'on exporte des matières premières, mais d'où on exporte aussi de la valeur ajoutée, des produits à valeur ajoutée?
Vous avez la réponse par exemple à la question que vous posiez tout à l'heure, quand vous demandiez, est-ce que finalement la CEDEAO, est-ce que ça a créé quelque chose d'un peu plus? Mais si vous n'avez pas au niveau de la production, si vous n'avez pas de complémentarité avec différents pays voisins, vous pouvez avoir l'outil qui libéralise les échanges, mais vous n'avez rien à échanger. Parce qu'il n'y a pas de production susceptible d'être échangée.
Ça ne se décrète pas, quoi. Un marché commun,
ça ne se décrète pas complètement. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait voir la ZLECAF comme un point de départ pour lancer des nouvelles politiques de transformation et d'industrialisation, et non pas comme quelque chose qui est déjà un aboutissement. C'est vraiment un point de départ. On a aujourd'hui, on doit transformer l'agriculture. On doit, parce que sinon on reste des importateurs de produits agricoles, de céréales. Et on l'a vu avec la pandémie, les difficultés dans lesquelles les pays africains se sont retrouvés et qui ont d'ailleurs poussé beaucoup de dirigeants à changer le paradigme dans lequel ils fonctionnent, en se disant, quelquefois ça peut nous arranger parce qu'on a besoin de recettes fiscales ou d'exportations rapidement pour boucler les budgets d'une année sur l'autre, mais à long terme, rester dans ce modèle de dépendance, qui est un modèle un peu, pour aller vite, crypto-colonial, hein, c'est un modèle d'interbranche, on vend nos matières premières et puis on achète des biens manufacturés, c'est typiquement un modèle colonial.
Alors un modèle colonial, mais le modèle promu pour l'instant par les partisans de la ZLECAF, en tout cas ce qu'on entend, c'est qu'à terme, même si ça prend un petit peu de temps, chaque pays va se spécialiser sur les productions où il a le meilleur avantage comparé. Bon, c'est du Ricardo dans le texte, c'est ce qu'il disait lui en Europe à la fin du 19e. Si le Portugal produit avec plus d'efficacité que l'Angleterre du drap et du vin, alors l'écart de productivité du travail étant plus fort pour le produit du raisin, etc. Enfin, on connaît à la fois ce qu'a dit Ricardo, mais surtout on sait qu'il s'est trompé aujourd'hui. On sait que il n'a pas pris en compte plein d'éléments extérieurs, comme le fait que, par exemple, le Portugal accumulait à l'époque des excédents commerciaux sur son partenaire portugais chaque année. C'était le début du 19e, que le Portugal avait les moyens de payer un déficit commercial parce que l'une de ses colonies de l'époque, et ça va vous parler, le Brésil exploitait l'or à plein avec ses esclaves venus d'Afrique. Bon, tout ça pour dire que Ricardo s'était aussi trompé sur plein de choses. Et néanmoins, est-ce qu'on l'invoque quand on parle de la ZLECAF? C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise les théories de Ricardo pour dire chaque pays d'Afrique va se spécialiser sur une production et c'est comme ça que ça va marcher?
Explicitement, non. On continue d'utiliser... Non, c'est pas aussi explicite que ça. Même si, quand on a une formation en économie, quand on vous parle de spécialisation, vous pensez à Ricardo. Mais dans le contexte actuel, contexte contemporain, objectivement, un des pays qui est de fait un pays modèle, même si tout le monde ne l'accepte pas comme ça, mais en tout cas en Afrique, c'est vu comme ça, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on voit que la Chine, c'est un pays qui est parti, qui est rentré dans des échanges internationaux, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, en partant sur des gammes de production légère, de textiles très accessibles. Et tout le monde disait, voilà, si on relie les théories de la spécialisation, la Chine va se spécialiser dans des industries, on va dire, entre guillemets, de bas de gamme ou des industries très accessibles, et l'Occident, l'Europe, les États-Unis vont aller sur le haut de gamme. Mais la Chine a montré que avec beaucoup de formations. La Chine fait, aujourd'hui, c'est un des pays qui dépose le plus de brevets, mine de rien, avec beaucoup de formations, avec des projets extrêmement concrets. On peut remonter la gamme. Donc, les avantages comparatifs peuvent être dynamiques. Ils peuvent être vus, on acquiert du savoir, on acquiert du savoir-faire d'une année sur l'autre. Et finalement, on exporte davantage de produits complexes, de produits sophistiqués, et on arrive à avoir une économie qui aujourd'hui est à plusieurs égards industrialisée. Donc il y a une pluralité de modèles aujourd'hui. Je pense que il y a plus à apprendre de l'expérience des 50 dernières années, parce que l'industrialisation du 19e siècle, on peut plus la voir aujourd'hui. C'est pas le même contexte. Il y a de nouveaux partenaires. On ne peut plus se positionner de la même façon sur les mêmes filières. Et par contre, quand on voit ce qu'a fait la Corée du Sud, quand on voit la façon dont l'Inde se développe également, il y a des leçons à tirer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources naturelles, stratégiques, etc. Et c'est peut-être aussi une des causes de notre faiblesse, parce que quand on a des richesses stratégiques, on attire forcément des acteurs extrêmement importants et plus forts que nous, éventuellement. Mais il y a quelque chose à faire qui est du domaine de la transformation et qui n'est pas optionnel. Ce n'est pas une option. C'est-à-dire que on transformera ou on ne sera pas. C'est aussi simple que ça. Et à quoi devrait et pourrait servir cette ZECAF, justement, c'est à servir de débouché à cette transformation. Et jusque-là, on a tourné, c'est un peu vraiment comme un changement, j'ai envie de dire, une révolution copernicienne. L'économie se concevait comme étant liée au rapport Afrique, Union européenne, Afrique-Occident. Et la ZLECAF ramène une logique différente, un paradigme différent. C'est des économies qui vont tourner autour d'elles-mêmes. Les économies africaines qui vont tourner autour d'elles-mêmes et non plus autour d'un marché européen, américain, voire asiatique.
Est-ce qu'elles vont éviter les erreurs qu'ont commises ceux qui sont venus exploiter leurs ressources naturelles, puisque vous parlez de ressources stratégiques par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui la ZLECAF va faire l'objet, Martial Zebelinga, de normes environnementales dans des pays dont on sait combien ils ont été pillés de leurs ressources naturelles, le sont toujours d'ailleurs, que ce soit par des multinationales extractivistes, mais aussi des politiques peu scrupuleux ou des groupes armés qui se financent par le trafic de matières premières? Est-ce que cette réflexion-là, c'est quelque chose que vous entendez beaucoup quand il s'agit de la ZLECAF?
Alors, on ne peut pas demander à la ZLECAF de répondre à toutes les questions qui se posent. Et c'est vrai que le commerce est transversal. Il touche tout le monde, etc. Donc, on est tenté d'y mettre beaucoup de choses. Mais les Africains sont très conscients de la question environnementale, d'autant plus qu'ils la subissent énormément. On a beaucoup de problèmes qui sont liés aux sécheresses, etc., etc. Et donc, il y a cette conscience-là. Mais il y a également la conscience que il y a un impératif qui est l'impératif de la production et de la transformation. Et donc, il y a un juste milieu à trouver entre promouvoir des filières de production qui soient suffisamment élaborées, suffisamment compétitives, suffisamment productives, et en même temps qui maintiennent un certain équilibre entre les espèces du monde, les êtres humains, les vivants, les animaux, la terre, etc. Ce qui est d'ailleurs plus en phase avec les cosmogonies africaines. Mais je suis d'accord avec vous pour dire une chose, il manque énormément c'est pas une réflexion africaine, mais il manque une épistémologie africaine sur la question de l'économie et sur la question du rapport de l'économie avec le vivant dans son ensemble.
Alors, peut-être que cet accord, cette zone de libre-échange africaine, à terme, va finir aussi par changer la physionomie de certains pays africains, aujourd'hui très tournés vers l'export, donc l'activité économique et humaine, elle est très souvent concentrée autour des ports, des mégalopoles portuaires comme Dakar. Peut-être que à terme, on va aussi voir la carte africaine et de concentration d'activité économique et humaine se modifier. Le simple fait, Martial Zebelinga, que le FMI encourage cet accord, anticipe d'ailleurs une augmentation de 50% des échanges commerciaux entre pays du continent, à condition, je le cite, d'améliorer le climat des affaires, d'investir dans le capital physique et humain, de créer un cadre robuste sur le plan macroéconomique. Il y a aussi des économistes des Nations Unies qui estiment que la phase de transition générera à elle seule 16 milliards de dollars de gains en bien-être. Je ne sais absolument pas comment on calcule les gains en bien-être, mais c'est aussi ça. La ZLECAF, c'est des sociétés de conseil, des experts en tout genre qui produisent des notes pour dire ça. Martial Zebelinga, donc, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour quand même même garder le cap de ce qui reste important dans cette...
Bon, alors, ce qu'on peut dire, je ne vous cacherai pas que je ne suis pas la personne qui est la plus enthousiaste quand elle lit une note du FMI ou de la Banque mondiale. Je suis convaincu que, de toute façon, les faits le montrent, les pays asiatiques qui, aujourd'hui, ont quand même réduit la pauvreté mondiale, la pauvreté dans leur pays, en général, ne se sont pas conformés à la lettre du FMI ou de la Banque mondiale. Donc, il y a quand même une vie en dehors de ces chiffres-là. Il faut dire aussi que les projections qui ont été faites sont des projections sur 10 ans, 15 ans, et donc ça peut paraître extrêmement impressionnant, mais quand on regarde dans le détail, ça reste de l'ordre de quoi 3, 4, 5% de croissance. Donc ce n'est pas non plus énorme. Je crois que il faudrait peut-être davantage rester sur des aspects réels, des aspects transformationnels, les aspects qui entourent la transformation du commerce, c'est-à-dire être conscient que il faudrait effectivement avancer sur un programme d'infrastructure, il faudrait avancer sur l'optimisation des services douaniers pour vraiment être beaucoup plus concret et ne pas, vous voyez, être dans le, je ne sais pas comment j'appellerais ça. Il faut être optimiste, mais il faut être aussi constructiviste. Il y a aussi des freins. Je pense qu'on ne peut pas rester dans cette logique de libéralisme pur, etc. Alors qu'on voit bien que, par exemple, les États-Unis, pour ne pas les citer, pratiquent une politique qui n'est pas une politique libérale, même s'ils se définissent comme libérales. Ils pratiquent la politique de leurs intérêts. Quand ils ont intérêt à, entre guillemets, libéraliser, ils le font. Quand ils estiment ne pas avoir intérêt, ils ne le font pas.
Et on en parlera demain, d'ailleurs, sur le protectionnisme.
Donc, les pays africains ont aussi leur carte à jouer, en sachant ce qui sera de l'ordre du discrétionnaire, de l'ordre des politiques, volontaristes, et puis ce qui sera de l'ordre des politiques ouvertes, libérales, etc.
Et un mot pour conclure, Martial Zebelinga, puisque vous évoquez les États-Unis, d'aucuns parmi les détracteurs, ils sont, c'est vrai, relativement peu nombreux, de cette zone de libre-échange continentale africaine, d'aucuns disent que ce sera le cheval de Troie des États-Unis et de l'Union européenne, notamment parce que, en parallèle de la ZLECAF, les États africains poursuivent chacun de leur côté la négociation d'accords de partenariat économique, notamment avec des pays européens, avec des conditions que certains estiment déséquilibrées. Pourquoi est-ce qu'on dit ça aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de ce côté-là?
Il y a toujours un risque parce que les États-Unis, comme l'Europe, ne dispose pas d'un imaginaire autre de l'Afrique. L'Afrique, c'est un espace d'influence et un espace, en fait, d'exploitation de matières premières. Donc, ils n'ont pas autre chose que ce modèle-là. C'est aux Africains de produire un autre modèle. Alors, techniquement, est-ce que le risque existe? Le risque existe à partir du moment où on revient aux règles d'origine, à partir du moment où on ne respecte pas les règles d'origine, où on a des règles d'origine trop flexibles qui permettent, en réalité, à des produits non africains de circuler en franchise de droits de douane dans l'espace africain.
Et notamment des pays européens qui arrivent sans droit de douane. Absolument. Puisque les Européens ont obtenu ça des États africains en échange de la suppression de leur droit de douane à eux. Donc certains disent, par exemple, le Kenya importe beaucoup d'Europe. Est-ce qu'il va ensuite, avec la ZLECAF, revendre des produits importés?
Le critère premier, ce n'est pas le fait que vous importiez. Le critère premier, c'est la nationalité des produits. Donc vous avez certes importé ou fait venir des produits d'Europe. On regarde si ces produits ont la nationalité, entre guillemets, kenyane ou africaine ou d'un pays ZLECAF. S'ils ont cette nationalité, alors ils circulent en franchise de droits de douane. S'ils ne l'ont pas, ils ne pourraient pas. Cela dit, ça reste un rapport de force. Ça reste aussi des négociations et les Africains doivent jouer leur carte autant que faire se peut.
Merci beaucoup Martial Zebelinga d'avoir été avec nous pour parler de cette zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Vous êtes chercheur indépendant en économie et en sciences sociales et je remercie encore Émilie Lafitteau qui était là au début de cette émission, économiste, chercheuse associée à l'IRIS. Vous écoutez Culture Monde et c'est l'heure de la revue de presse internationale de Catherine Dutu.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et pour une fois, un seul sujet au menu de votre revue de presse, Catherine, l'effondrement du pont de Baltimore dans la nuit de lundi à mardi sur la côte est des États-Unis. Il a été percuté par un porte-conteneur et les secours ont suspendu hier soir les recherches.
Le cargo est d'ailleurs toujours coincé sous le pont autoroutier Francis Scott Key dans le port stratégique de Baltimore, comme le montrent le Washington Post et la BBC. Des médias qui ne lésinent pas sur les vidéos, photos, images satellites de l'accident aux lourdes conséquences sur le plan économique et humain. Les 6 personnes, tout d'abord portées disparues, travaillaient à réparer des nids de poules. Rien à voir avec un quelconque problème structurel du pont, précise le journal local The Baltimore Banner. Des ouvriers du bâtiment d'investissement du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Mexique, âgés entre 30 et 40 ans, sont aujourd'hui présumés morts, alors qu'ils étaient venus à Baltimore pour trouver une vie meilleure, se désole le Baltimore Banner. Le quotidien, comme les autorités de l'État du Maryland, salue par ailleurs la réactivité des 22 membres du cargo. L'équipage a lancé un appel de détresse permettant aux autorités d'arrêter le trafic sur le pont autoroutier et de préserver ainsi de nombreuses vies. Le New York Times et le Baltimore Banner se penchent sur les antécédents du Dali, le nom de ce cargo qui a provoqué l'effondrement du pont. Il bat pavillon singapourien et a été affrété par Maersk, le géant du transport maritime basé au Danemark. En 2016, un rapport avait fait état de dommages sur la coque du navire. Cette année-là, le Dali avait heurté un mur de pierre en quittant le port d'Anvers, en Belgique. En juin, une autre inspection avait révélé des problèmes de propulsion et de machines auxiliaires, rapportent le Baltimore Banner et le New York Times. Mais le navire a été inspecté pour la dernière fois en septembre par les gardes-côtes américains qui n'ont relevé aucune anomalie, comme le rappelle également le journal singapourien The Straits Times. Mais voilà ce qui arrive lorsqu'un cargo moderne de 95 000 tonnes rencontre une infrastructure vieillissante aux États-Unis, titre le site d'information américain Business Insider, car les experts le confirment au Guardian et à la BBC, le pont achevé à la fin des années 70 n'a pas été conçu pour d'immenses cargos comme le Dali, 289 mètres. Lorsqu'il a réalisé son problème de propulsion, sa perte de puissance, c'était déjà bien trop tard. C'est comme si les freins de votre voiture tombaient en panne, explique le Baltimore Banner.
This is a unique circumstance. I do not know of a bridge that has been constructed to withstand a direct impact from a vessel of this size.
Ce sont des circonstances uniques et je ne connais pas de pont capable de résister à un cargo de cette taille, a déclaré hier le ministre des Transports Pete Buttigieg depuis Baltimore dans une interview relayée notamment par Forbes et NBC News. Il alerte sur les conséquences durables de l'effondrement de ce pont clé pour Baltimore et la côte est des États-Unis, un pont, un emblème, une cathédrale pour les habitants de Baltimore aussi. Ce pont autoroutier Francis Scott Key voit passer plus de 30 000 véhicules par jour, les commuters qui font la navette entre leur domicile et leur travail, explique le Baltimore Banner.
Le port de Baltimore joue aussi un rôle important dans l'expédition de véhicules, Catherine.
750 000 voitures et camions y ont transité l'an dernier, explique le New York Times et le Wall Street Journal. Le port de Baltimore se classe au premier rang aux États-Unis pour le transit de véhicules. Il a l'avantage d'être situé tout près du Midwest où sont implantées les usines automobiles américaines. General Motors, Ford et Stellantis, qui possèdent Chrysler, Dodge et Jeep, prévoient déjà de détourner les véhicules vers d'autres ports de la côte Est, Brunswick en Géorgie ou Charleston en Caroline du Sud. Baltimore, deuxième plaque tournante aux États-Unis pour l'exportation de charbon, cette fois destiné à être vendu en Europe, en Chine et en Inde, note le Wall Street Journal. Et c'est pour cela aussi que l'effondrement de ce pont à Baltimore fait aussi la une du Times of India et de l'Hindustan Times.
Et on comprend pourquoi l'administration Biden tient à payer au plus vite la reconstruction de ce pont.
Alors que des experts se demandent aussi dans les colonnes du Guardian et du New York Times si l'absence de protection autour des piles du pont n'a pas précipité son effondrement. L'état préoccupant des ponts américains avait déjà été pointé du doigt par l'administration Biden pour faire passer en 2021, rappelle le Guardian, une loi prévoyant 1200 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures dans tout le pays. Environ 167 millions de voyages sont effectués sur des ponts structurellement déficients aux États-Unis. À tel point que le Washington Post offre un conseil à ses lecteurs: si leur voiture tombe dans l'eau, il faut ouvrir sa fenêtre en moins d'une minute. À Singapour, à présent, le journal The Straits Times explique que le propriétaire du navire, battant, je le rappelle, pavillon singapourien, pourrait faire face à des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts, mais il pourrait tenter de réduire sa responsabilité en vertu d'une obscure loi du 19e siècle déjà invoquée par le propriétaire du Titanic afin de limiter son indemnisation pour le naufrage de 1912. Il s'agirait de réduire la responsabilité de l'armateur à la valeur du navire après l'accident, plus les revenus qu'il a aperçus en transportant le fret à bord, précise également l'agence économique Bloomberg et The Business Standard. Nouvelle complication, en tout cas, dans le trafic maritime après les attaques des Houthis en mer Rouge, les rebelles yéménites soutenus par l'Iran qui déstabilisent le Proche-Orient depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.